France Musique.
Je m'appelle Sylvie Meyer, j'ai 53 ans, je suis mère de deux enfants, je suis séparée de mon mari, je travaille à la CAGEX, une entreprise de caoutchouc, à la section des ajustements, et je n'ai aucun antécédent judiciaire.
Bonsoir Sébastien Rivas.
Bonsoir Laurent.
Vous reconnaissez cette voix ?
Ah oui, c'est la voix de Richard Brunel, metteur en scène, directeur de l'Opéra de Lyon et metteur en scène de l'Opéra Otage.
Qui est Sylvie Meyer ?
Sylvie Meyer est une ouvrière qui travaille à la section des ajustements dans une entreprise de caoutchouc qui s'appelle la CAGEX et c'est le personnage principal de l'Opéra Otage, opéra que donc j'ai composé et qui est mise en scène par Richard Brunel et qui est l'histoire de cette femme qui, à un moment, prendra en otage son patron.
Sébastien Rivas, vous créez donc sur un livret de Nina Bouraoui et une mise en scène de Richard Brunel, votre opéra Otage, qui est donné du 17 au 23 mars au Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon, dans le cadre de la Biennale des musiques exploratrices du Gramme, dont vous êtes le co-directeur. Sébastien Rivas, et si vous deviez vous présenter en trois ou quatre phrases comme Sylvie Meyer, que diriez-vous ?
Eh bien, je dirais que je m'appelle Sébastien Rivas, j'ai 48 ans, je suis père d'une petite fille, et je travaille au GRAM, qui est le générateur de ressources et d'activités musicales exploratoires de Lyon.
Le Figaro vous a distingué la semaine dernière comme l'un des 10 compositeurs contemporains à suivre dans l'opéra. C'est bien, hein ?
Ah oui, j'étais très surpris, mais je...
Et si moi, je vous présente comme l'auteur de l'opéra Aliados ?
Ah oui, je suis tout à fait l'auteur de l'opéra Aliados, un opéra qui
a été créé en 2013, c'est ça?
En 2013, voilà. Et qui, comme Otage, et comme toutes les formes scéniques que j'ai pu faire, est un opéra qui compte beaucoup pour moi parce qu'il est très très inscrit dans ma vie aussi.
Nous allons écouter le tango d'Aliados, votre opéra créé en 2013. Donc il s'agit bien d'un tango entre Margaret Thatcher et Augusto Pinochet, c'est ça?
Absolument.
Thank you.
D'Aliados de Sébastien Rivas, l'ensemble multilatéral dirigé par Léo Varinsky. Sébastien, vous voulez dire un petit mot sur ce tango ?
Oui, bah c'est un tango burlesque, un tango un peu ridicule, un tango gauche en cinq temps, construit sur le motif du tango de l'histoire du soldat qui est sous-jacente à ce projet, qui correspond bien à ce moment où danse ou piétine la carte des Malouines, Thatcher et Pinochet en dansant un tango. C'était là tout l'objet de ce tango ridicule.
Sébastien Rivas, vous créez à partir du 17 mars un opéra Otage au Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon. Quelle est l'histoire d'Otage ?
Ben, l'histoire d'Otage, c'est avant tout l'histoire d'un parcours intérieur d'une femme qui va tout au long d'une enquête dont on ne sait pas si c'est un cabinet de psychanalyste ou sans doute un interrogatoire chez un juge, va parcourir le souvenir de sa vie et décrire ce qui l'a mené à prendre un jour en otage avec un couteau toute une nuit durant son patron.
Otage est un monologue intérieur à deux voix dans lequel les personnages se parlent à eux-mêmes. Alors pour notre émission, on a décidé de vous faire réagir à des phrases que vous avez dites par le passé dans des émissions radio ou des documentaires. Vous êtes prêts ?
Ah, d'accord, alors, absolument.
La première phrase date du 26 janvier 2014. Vous êtes l'invité de Rodolphe Bruno Boulmier. L'émission s'appelle « Le jour d'avant » sur France Musique.
Pour moi, la composante peut être essentielle du désir d'écrire un opéra, c'est qu'il faut qu'il y ait de la folie. Je pense que l'opéra est la forme qui peut le mieux porter la folie.
Qu'est-ce que vous répondez à vous-même ?
Je suis toujours d'accord avec cette phrase. Je pense que c'est là où tout ce qui serait surjoué au théâtre, au cinéma, la vocalité, elle permet vraiment de faire un focus sur les états psychologiques et de faire un focus sur ce qui se passe, ce qui se joue, même si ce sont que des métaphores dans la psyché, qui mène à ce drame qui est toujours sous-jacent à l'opéra, cette folie, la folie des puissants, mais aussi la folie des gens normaux.
Otage parle de folie.
Alors c'est une conclusion que chacun devra tirer. Je ne sais pas si Otage parle de folie. En tout cas, il parle d'un état limite et d'une transformation par le biais de quelque chose qui est condamnable légalement. Donc oui, en partie, il parle de folie. Pour moi, il parle de folie absolument.
Le 26 janvier 2014, dans le jour d'avant, vous disiez également ceci.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, la musique instrumentale, la musique pure, fait l'objet d'une jouissance très très individuelle. Les gens sont là avec leurs casques, ils prennent un moment pour écouter de la musique, seuls, isolés. Le spectacle scénique répond à cette nécessité, je pense, de se fédérer autour de quelque chose qui est en train d'être fait.
Sébastien Rivas, l'endroit du collectif.
L'endroit du collectif, non, l'endroit du collectif demeure un endroit à sauvegarder en tant que modèle de civilisation aussi, je pense. La communion qu'implique l'écoute collective, que ce soit dans un lieu public, que ce soit dans une salle de concert. Je pense beaucoup en ce moment à cette question, d'où la question du sauvage qui est dans la thématique de la Biennale dont peut-être on parlera, à cette phrase de Laurie Anderson qui, pour ainsi dire, pour parler de toutes ces nouvelles formes, que des fois on parle de formes immersives, audiovisuelles, etc., dit que c'est tout simplement la même chose que le feu que l'on allumait au fond d'une caverne pour créer un rituel et être ensemble en commun et transcender par la fiction notre réalité. Et je pense que c'est toujours ça ce qu'on fait quand on construit un théâtre ou quand on fait un concert ou un spectacle.
Pourtant, vos opéras parlent souvent de personnages isolés et solitaires. C'est ça le lieu du collectif ?
Oui, c'est ça. C'est peut-être C'est peut-être ce focus qu'a le théâtre. Bon, le théâtre fonctionne beaucoup sur la notion de huis clos parce que c'est toujours très très propice au théâtre. Mais au-delà de ça, oui, c'est le lieu. En tout cas, l'opéra, c'est le lieu de rendre public et spectaculaire le théâtre mental qui se joue dans l'univers cloisonné du personnage.
Sébastien Drivas, nous allons écouter un extrait de votre opéra radiophonique « La nuit hallucinée d'après les illuminations de Rimbaud ». Est-ce une musique empreinte de folie ?
D'hallucination, pas forcément de folie. C'est pas la même chose.
Et nous allons écouter « Matinée d'ivresse ». Que se passe-t-il dans « Matinée d'ivresse » ?
Eh bien, c'est toute l'ivresse, justement, dans ce texte-là. Les Illuminations de Rimbaud, c'est quand même un texte majeur dans son parcours. C'est peut-être un texte, un des derniers. Une saison en enfer et les Illuminations avant de quitter, finalement, le monde poétique pour le monde réel, tout en s'en sauvageant. C'est une sorte de Into the Wild. Et je pense qu'il annonce tout ça. Il annonce tout ce qui va venir, tout en étant, je pense, un désenchantement sur la violence qui allait s'abattre lors du début du XXe siècle et que je pense Rimbaud était quand même très très au fait dans sa sensibilité tout en faisant une métaphore on va dire sur l'ivresse ou l'hallucination, il parle avant tout de la violence qui arrive.
Fanfare atroce où je ne trébuche point, chevalet féerique, hurrah pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux pour la première fois. Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines, même quand la fanfare tournant, nous serons rendus à l'ancienne inharmonie. Oh, maintenant, nous, cyniques de ces tortures, rassemblons fervemment cette promesse surhumaine, faite à notre corps et à notre âme créée. Cette promesse, cette démence, l'élégance, la science, la violence. On nous a promis d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts, et cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité, cela finit par une débandade de parfums. Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets d'ici, sacrés, soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela commençait par toute la rustrerie, ainsi que cela finit par des anges de flamme et de glace. Petite veille d'ivresse sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié, nous t'affirmons, méthode, ne n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière, tous les jours. Voici le temps des assassins.
Matinée d'ivresse, extrait de La nuit hallucinée de Sébastien Drivas, François Martouret récitant, l'ensemble multilatéral était dirigé par Kanako Abe. Sébastien, votre opéra Otage est créé dimanche prochain dans le cadre de la Biennale du Graham de Lyon et s'inspire d'un texte de Nina Bouraoui. Alors à l'origine, il s'agit d'une pièce de théâtre, puis d'un roman. Est-ce que vous avez travaillé avec la romancière sur le livret ?
Alors, non. J'ai eu des contacts avec Nina et elle a eu cette... générosité, ce détachement aussi d'être extrêmement touché, honoré par cette demande qui était celle de prendre son texte. Et j'avoue qu'elle nous a laissé à Catherine Alliomarie, la dramaturge, Richard Brunel, donc le metteur en scène, et moi, le soin de relire et d'adapter cette pièce en un livret d'une façon très très libre. Il y a eu quelques contacts, je lui ai envoyé quelques extraits, elle a toujours été très 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 gentille et j'attends avec impatience justement sa vision de la chose.
Sébastien, est-ce que vous êtes prêt à entendre vos voix anciennes ?
Oui, pourquoi pas.
Alors nous sommes le jeudi 13 juin 2013 et vous êtes l'invité du rendez-vous de France Culture et vous parlez du livret d'Aliados écrit par Esteban Bourg.
Moi, j'ai décidé d'appliquer un certain nombre de filtres à ce livret, c'est-à-dire une façon de le redécouper, comme par exemple lors de la lettre aux Chiliens, où le livret se présente comme une lettre continue et fluide. Et moi, j'ai décidé de refragmenter cette lettre de telle façon à lui faire dire d'autres choses. Voilà, alors il y a des marges de liberté que j'ai prises en tant que compositeur et aussi un grand respect du texte du livret d'Esteban.
Est-ce que vous avez fait la même chose pour Otage ?
Alors pour Otage, oui, en partie, même si tout ça a été un travail différent, parce que la présence d'une dramaturge a beaucoup affiné les gestes, justement en prévision de à quel moment on allait répéter quelque chose. Par exemple, lorsque son mari s'en va, elle lui dit « je m'en vais ». Dans le texte original, elle dit « un beau matin, mon mari s'est réveillé, il a dit « je m'en vais ». Et elle continue son texte. Là, et on fait une intervention du mari qui dit « je m'en vais », il y aura une scène où il va dire « je m'en vais » pendant 5 minutes. Et effectivement, c'est une situation théâtrale qui s'ouvre, dramaturgique, et c'est aujourd'hui une décision collective, parce que pour moi, l'opéra, c'est quand même le lieu du collectif.
Comme vous le disiez en 2014, n'est-ce pas ? Alors, il y a du parler et du chanter dans Otage, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, et il y a surtout une fluidité entre le parler et le chanter. Le chanter, c'est pour moi la grande question toujours à l'opéra. J'aime beaucoup avoir une idée très, très déterminée de ce que je vais faire des voix en fonction de leur état psychologique ou de leur évolution ou de l'évolution de leur discours. Et il n'y a pas de règles. Je ne cherche pas dans la vocalité le matériau expérimental que je peux chercher dans la musique instrumentale, c'est-à-dire à y mettre mon empreinte sur la vocalité. Je cherche avant tout la justesse théâtrale et l'évolution du personnage. Donc lien entre le parler et le chanter passe par le mesurer, le non mesurer, passe par le rapport à la scène et à l'action ou à des moments par un rapport de contamination de l'un à l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chanter est le lieu, comme je le disais, du théâtre de la psychologie intérieure. Donc à chaque fois que l'on va convoquer le cauchemar, à chaque fois que l'on va convoquer le rêve, c'est là où le chant arrivera, un peu comme dans le récitatif traditionnel.
On va écouter cette lettre aux Chiliens d'Aliados. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots?
Oui, alors c'est une vraie lettre qu'a écrit vraiment Augusto Pinochet lorsqu'il était en arrêt domiciliaire, assigné en résidence. Et il écrit cette lettre au Chilien dans laquelle il dit « Je n'ai jamais tué ». Et c'est là où moi, le transformant, je la fais le dicter pour avouer au contraire qu'il a vraiment tué. Mais sa lettre originale est traitée de cette façon-là, mais c'est vraiment sa lettre originale.
Lionel Peintre, Till Montero, l'ensemble multilatéral est dirigé par Léo Varinsky.
Pensando en la libertad de los chilenos y en la vida nacional.
todos nuestros deseos. Ahí no consagramos todos nuestros deseos. Quienes actuamos del 11 de septiembre.
Un extrait d'Aliados de Sébastien Rivas avec le formidable Lionel Pintre en Pinochet. Sébastien, pour votre opéra Otage, vous avez également deux beaux interprètes.
Ah oui, absolument. Nicolas Bellaire-Carbone, une interprète magnifique qui joue Sylvie Meyer, et Ivan Ludlow qui joue l'homme, à savoir une figure qui incarne la masculinité toxique et donc qui est autant le patron, le mari que le père, enfin l'ex-mari que le père.
Sébastien, dans votre concert de voix, je voudrais vous faire entendre des mots de vous en anglais, s'il vous plaît. C'est à l'occasion d'un reportage avec le chorégraphe Alban Richard en 2019.
Every music is done on real time with this breathing of the dancers, make a kind of a machine, of a scenic machine, that everything that is going on is produced on stage.
Escotage est une machine scénique.
Otage est une machine scénique, absolument. Je crois beaucoup en ça. J'ai fondé un laboratoire qui s'appelle LIPS, Laboratoire Interdisciplinaire des Prototypes Scéniques, justement, d'abord à Buenos Aires, puis ensuite à Gram, où on vient de tenir la dernière édition avec Alexander Schubert, entre autres. Et je crois beaucoup en cette idée, justement, du régime collectif, d'une part, qui passe aussi par l'émancipation des techniciens et des interprètes dans la prise de décision. Je pense beaucoup à cette... ce mélange entre les écritures plateaux et les écritures bureaux. Et je crois que la machine scénique est quelque chose qui a des différences selon le projet, parce qu'il y a aussi à intégrer ce que Antoine Gint appelait la voilure de la production. Et je pense que c'est une phrase assez juste, c'est-à-dire que la production en fait partie aussi de ce collectif.
Autre phrase, Sébastien, vous l'avez prononcée à l'occasion d'un documentaire dans le cadre des 40 ans du CDMC. Nous sommes en 2017. D'abord, vous disiez qu'un compositeur était un migrant, car il devait faire migrer son langage.
L'histoire de la musique est une histoire de migration. Même pour un compositeur de musique contemporaine, il y a une migration première, je pense, et c'est le rapport à l'électronique.
Quel est le rôle de l'électronique dans Otage ?
Eh bien, le rôle de l'électronique dans Otage, il est aujourd'hui l'électronique est justement dans cette intermédialité, et c'est un élément de plus. On peut se servir d'une bougie si on a besoin, ou d'un capteur. Dans Otage, il a aussi une grande partie de sound design, parce qu'il y a cette entreprise avec son côté oppressant, sa ventilation. Alors il y a un peu de sound design, il y a beaucoup de temps réel, et il y a aussi la convocation d'un univers qui permet un dédoublement autant de la personnalité que des instruments.
Est-ce que vous avez un rapport indiscipliné à l'opéra ? Faut-il être indiscipliné ?
Moi, je crois qu'il faut être transdisciplinaire et indiscipliné. Mais par contre, je crois absolument en la question de l'indiscipline comme quelque chose qui vient après une très très forte et contraignante discipline. C'est comme c'est comme l'histoire d'Otage. On sort à un certain moment, avec violence ou pas, d'une situation oppressante qui peut être celle de l'académisme. Mais il faut quand même y être passé un petit peu pour pouvoir indiscipliner la pratique.
Vous nous avez amené We Must, une pièce pour récitant, contrebassiste et électronique, une œuvre de 2018.
Ouais, We Must est une œuvre très importante pour moi. C'est une œuvre qui est pour ainsi dire la dernière œuvre instrumentale, tout en étant une œuvre avec un texte, avec justement ce final, avec ce monologue de Prosper qui demande, un peu comme dans la fin de La Tempête, au public de le libérer de par ses applaudissements de cette île. Et c'est un petit peu une demande de mon côté de me libérer de la musique instrumentale pour aller vers le spectacle, l'opéra qui est le territoire qui me passionne de plus.
De We Must de Sébastien Rivas, Florentin Gino contrebasse, Sébastien Navès, réalisateur informatique musicale. Dans Otage, votre opéra, qui est créé à la Croix-Rousse, à Lyon, il y a un dispositif filmé. D'ailleurs, dans tous vos ouvrages lyriques, vous utilisez des caméras.
Alors, c'est toujours une décision qu'on prend avec les metteurs en scène, parce que moi, je ne décide pas de la mise en scène. Mais c'est vrai que la ressource du doublement de l'électronique qui est si présente dans mon travail, je pense qu'induit les metteurs en scène à en faire de même. Après moi, quand j'ai eu l'occasion pour Snow on Her Lips, par exemple, de me charger de tout, effectivement, j'ai beaucoup travaillé à ça. C'est la question de Pasolini qui disait que pour être plus objectif dans le cinéma, il faudrait démultiplier les points de vue. Je pense que la microphonie et la prise de vue, c'est un peu ça. Ce sont plusieurs points de vue sur un même spectacle qui est joué et filmé.
Sébastien, nous sommes le 28 novembre 2021 et nous sommes ensemble tous les deux dans l'émission Carrefour de la création sur France Musique.
Il y a une idée de point de vue qui est très très importante à se poser comme question. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans cette objectivité vis-à-vis de la scène qui doit rendre la scène, ou est-ce qu'on peut se permettre d'aller focaliser des choses ça et là? C'est une vraie question, donc effectivement on a pris ça en compte, ça ne veut pas dire qu'on ait trouvé une solution.
Sébastien?
C'est marrant de voir que je dis la même chose 3 ans après. Oui, bah voilà.
Alors comme pour Otage alors.
Pour Otage, il y a clairement cette démultiplication des points de vue. Il y a des caméras de surveillance qui surveillent les employés qui sont en fait l'ensemble instrumental. Il y a le fait que chacun est filmé. On est dans une scénographie qui est un panoptique comme celui d'une prison. Donc la question de la surveillance ou en tout cas du contrôle de la force de travail de tout un chacun, on le voit aujourd'hui. davantage. D'ailleurs, tous les dispositifs qu'on est en train de tester pour la sécurité, par exemple pour les Jeux Olympiques, et montrent à quel point le contrôle en temps réel est un élément aujourd'hui. Être filmé, c'est rien, c'est banal. Donc, je pense que le théâtre et l'opéra montrent ça, montrent un peu cette question du dédoublement du point de vue et du fait que la vérité, l'objectivité est très très difficile. En fait, à obtenir. Parce que selon le point de vue, on peut effectivement accuser l'un ou l'autre d'une chose ou l'autre.
Sébastien Drivas, vous avez fait un opéra filmé qui s'appelle Rayon N.
Oui, alors effectivement, nous n'avons pas malheureusement pu arriver jusqu'à la fin de la réalisation de cet opéra filmé. La musique a été écrite, enregistrée, nous avons même gagné un prix qui était celui du Monde Nouveau. Mais malheureusement, Théâtre et Musique, TM, a subi de plein fouet les conséquences du désinvestissement culturel et notamment le fait de sa subvention qui a été ramenée à zéro et la liquidation de Théâtre et Musique qui était vraiment un des grands moteurs de l'opéra et du théâtre musical contemporain a disparu et avec elle ce projet.
On va écouter la scène 7 de Rayon N. Que se passe-t-il ?
Il se passe dans Rayon N que c'est en plein Covid et en fait on est tous enfermés en train d'attendre à quel moment on va être libérés et c'est ce qui se passe dans Rayon N qui a écrit pendant le confinement et tout le monde attend les résultats de la découverte d'un scientifique. Alors ça sera pas sans rappeler certains moments qu'on a vécu et là c'est le moment où l'attaché de presse dit aux journalistes qu'il faut attendre encore du temps et combien de temps dit avec impatience toute cette quantité de journalistes.
Une scène de Rayon N de Sébastien Drivas par les Métaboles. Dans votre travail de compositeur migrant, il y a l'électronique, mais il y a aussi la danse. Vous avez travaillé, on le disait, avec des chorégraphes comme Alban Richard. Alors nous revenons à l'émission de Rodolphe Bouneau-Boulmier en janvier 2014 sur France Musique. Sébastien, vous parlez de la musique de votre professeur, Ivan Fedele.
Sa musique était pour moi fascinante, foisonnante de fraîcheur. Ça renouvelait avec quelque chose que j'avais du mal à trouver à l'époque dans la musique contemporaine, qui était la question de la corporéité aussi, d'un corps plus lâché, moins retenu, moins, en tout cas moins appareillé par la notation et par la contrainte, tout en étant exigeant et complexe.
Sébastien, est-ce que vous êtes d'accord avec vos phrases d'il y a 10 ans?
Oui, en partie, bien sûr. Bien sûr, la question du corps est vraiment quelque chose qui me paraît central. C'est aussi une quête aussi personnelle. La question de l'identité, aujourd'hui, je la vois beaucoup plus à l'aune de tout ce qui s'est passé entre-temps. La recherche d'un corps, c'est une question centrale, je pense, dans l'identité des gens. Aujourd'hui, on le comprend davantage. Alors du coup, j'entends ça avec un peu de tendresse.
Quelle est la place du corps dans Otage? Et quel corps c'est? Quel corps musical?
La place du corps dans Otage est diverse. D'une part, il y a le corps qui est une scène qui n'est pas dans Otage, mais qui est dans la pièce de théâtre, qui est le déclencheur de Sylvie Meyer, qui a perdu en fait son mari l'ayant quitté. Se trouvant dans une situation d'emprise à bien des égards, elle perd tout plaisir corporel. Et c'est un jour, en essayant de le retrouver sous sa douche, que tout va se déclencher dans sa tête et qu'elle va commettre cet acte quelque part. C'est le fait de se dire qu'elle n'a plus au même son corps pour elle. Donc il y a d'abord, avant tout, cette corporéité qui est présente dans le livret.
Et dans la musique?
Et dans la musique, ça passe justement beaucoup par la question de la respiration. Elle parle beaucoup de l'absence de violence avant la violence, du fait qu'elle ne connaît pas la violence, qu'elle ne l'a jamais connue, que son couple c'est le calme plat, qu'elle n'a rien dit quand son mari l'a quittée. Et tout ça passe par une intimité dans sa respiration qui est reprise par les instruments. Et du coup, cette respiration qui commence à être la mécanique finalement d'une entreprise de caoutchouc, donc une musique pneumatique respiratoire. Et on sent effectivement cette vitalité du souffle vital constamment là derrière, que soit le souffle du travail anéanti, je dirais, que ce soit celui du dernier souffle de Sylvie.
Vous nous avez apporté un extrait de Snow on Her Lips. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est?
Alors Snow on Her Lips, c'est un monodrame. C'est un spectacle un peu particulier, qui est autant une installation sonore, autant une chorégraphie qu'un spectacle théâtral, cinématographique, dont j'ai un peu signé un peu tout. C'est ma première expérience un peu d'être un peu à tous les postes, tout en ayant des gens d'une extrême capacité à chacun d'entre eux, bien sûr. Et c'est avant tout l'histoire, c'est mon obsession de l'histoire, de la représentation de la femme dans la peinture italienne, jusqu'à la mécanisation du travail dans Britney Spears, jusqu'à énormément de références qui passent sur cette représentation très masculine de la femme dans les arts.
Thank you.
De Snow on Her Lips de Sébastien Rivas. Quels sont les interprètes ?
Alors, c'est Emma Terneau, la performeur, Olivia Martin à la percussion et performance aussi, et Bastien Roblot à la guitare électrique.
Sébastien Rivas, il nous reste un aspect très important d'Otage à aborder, c'est sa dimension politique. En quoi le livre de Nina Bouraoui et votre opéra sont une critique du capitalisme ou du libéralisme ?
Ah ah ! Je sais pas, je pense que on est là plus pour poser des questions que pour amener des réponses univoques. Alors, je pense que tout un chacun peut se trouver cet aspect critique dans cette œuvre-là. Mais c'est une critique de l'emprise. C'est une critique de l'emprise telle qu'elle se... Il n'y a pas le choix. C'est comme disait Margaret Thatcher, personnage de mon opéra, non ? Le Tina, there is no other alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Eh bien, en fait, il y en a. Et c'est peut-être une alternative violente, celle que prend Sylvie Meyer. Je suis en rien en train de dire que la violence politique devrait être la solution.
Alors justement, nous allons entendre un dernier extrait de votre voix. Nous sommes toujours dans le jour d'avant sur France Musique en 2014. Alors Sébastien, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai l'impression que vous parlez déjà de votre opéra Otage 10 ans en avance.
Moi, j'ai été aussi autant, je dirais, signé par la violence politique telle que celle exercée dans les dictatures militaires d'Amérique latine ou celle exercée aussi dans cet ultra-conservatisme libéral incarné par Thatcher, Reagan et Pinochet, etc. Mais j'ai aussi pu voir de près les ravages de l'irresponsabilité de la violence gratuite comme seule réponse à l'indignation qui a été malheureusement un peu une tentation de la gauche, d'une certaine catégorie de la gauche, qui pourtant, en véhiculant des idées qui peuvent être tout à fait louables, a à un certain moment même perdu la raison, justement. On en reparle, mais voilà, la folie meurtrière comme une réponse presque individuelle et presque, je dirais, désespérée. Le problème, c'est que derrière, il y a des gens pour adhérer à ça et des gens pour finalement devenir la chair à canon, comme c'est le cas aussi dans Aliados de ce pauvre conscrit. C'est-à-dire que la chair à canon de l'histoire et la façon dont finalement certains d'entre nous ne sont que ça dans ce flux incessant de temps est un sujet qui me parle.
Est-ce que Sylvie Meyer est une chair à canon de l'histoire ?
Absolument. C'est absolument ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sylvie Meyer et toutes les nouvelles narrations dont on parle aujourd'hui, le fait de rendre visible des gens qui ne sont pas visibles en général dans la représentation théâtrale ou opératique, parce que la mythologie, parce que voilà, des personnages beaucoup plus héroïques ou même dans la déchéance. La banalité pourtant de cette chair à canon, comme elle dit à la fin de cet opéra, quand elle dit à son patron « je t'en veux parce que tu n'as pas su voir mon bonheur ». Il était médiocre, mais il existait.
Pour ce thème de la violence politique, vous avez choisi une chanson de Kate Tempest, Europe is Lost. Pourquoi ce choix ?
Ah, eh bien, Kate Tempest, c'est quelqu'un que j'ai découvert d'abord comme poète et puis ensuite comme musicienne. Et je trouve que c'est quelqu'un qui interpelle beaucoup. Alors, bien sûr, Europe is Lost, c'est un vieux morceau de sa jeunesse, peut-être un peu plus naïf de ce qu'elle fait aujourd'hui, mais c'est quelqu'un pour moi d'essentiel dans l'interpellation des problématiques et de l'hypocrisie, peut-être, ou de la naïveté, peut-être, que l'on vit actuellement dans ce monde qu'est l'Europe.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge.
Europe is Lost, Parquet Tempest. Sébastien Rivas, maintenant c'est à vous de travailler, ou plutôt de parler de travail, car vous présentez certes Otage du 17 au 23 mars au Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon, mais vous êtes également le co-directeur de la Biennale des musiques exploratoires du Gramme qui se tient du 6 au 30 mars à Lyon.
Oui, tout à fait. Donc ça a déjà commencé. Oui, alors effectivement, je suis directeur du Gramme avec Anouk Avis. Et cette biennale est une chose très importante pour moi. Ce serait la troisième s'il n'y avait pas eu le Covid. Et dans cette biennale qui est autour de l'enfant sauvage, avec Nina Bouraoui comme artiste invitée, nous prenons effectivement beaucoup de lieux et de quartiers dans toute la métropole de Lyon, jusqu'à Valence, pour proposer des formes qui vont depuis la musique et la danse jusqu'au concert de musique symphonique en passant par l'opéra, les formes hybrides, le groupe Caravaggio avec les percussions Strasbourg, énormément aussi d'ateliers à destination des familles, des enfants, des pratiques de nouvelles lutheries, des pratiques de prise de son, de balades sonores, sans saxophone qui vont jouer Chiarino avec tous les élèves du conservatoire. C'est une vraie fête de la musique de création qui aura lieu à Lyon, donc à partir de la semaine prochaine.
Parmi les compositeurs joués, vous aviez envie de parler de Francesca Veronelli.
Francesca est une compositrice que je trouve très essentielle. J'aime beaucoup sa musique. Depuis que le début de mon arrivée à Gram, je voulais travailler avec elle. Mais aujourd'hui, les compositrices, surtout quand elles ont beaucoup de talent, sont extrêmement demandées. Heureusement d'ailleurs que cela est en train de changer un petit peu. Et donc Francesca Veronelli présente un projet qui est qu'est-ce qui reste de justement ça a beaucoup à voir avec mes propres questions. Qu'est-ce qui reste de la chanson lorsqu'il n'y a plus la voix, avec ce spectacle Songs and Voices, avec les Neue Vokalsolisten et l'ensemble C'est Barré. Ce sera au Théâtre de la Renaissance.
Le 26 mars, c'est aussi joué au Centre Pompidou à Paris le 29 mars et le 12 mai au GMEM de Marseille.
Exactement, et c'est une pièce qui a aussi été jouée à la Biennale de Venise.
La musique de Francesca Veronelli. Songs and Voices de Francesca Veronelli sera donnée par l'ensemble C'est Barré le 26 mars au Théâtre de la Renaissance à Lyon, le 29 mars au Centre Pompidou et le 12 mai au GMEM de Marseille. Sébastien, pour terminer l'émission, ça vous dit qu'on parle d'amour ?
Pourquoi pas, c'est toujours bien de parler d'amour.
Alain Barrière est présente dans le livre de Nina Bouraoui. Est-ce qu'elle l'est dans l'opéra ?
Alors, pour des raisons de droit d'auteur, elle ne l'est pas tout à fait. Elle ne l'est pas tout à fait. Elle l'est suggérée, mais elle ne l'est pas. Mais oui, elle est dans le livret, clairement. C'est une chanson qui fait basculer Sylvie Meyer. Et je ne connaissais pas du tout Alain Barrière. Je ne connaissais pas du tout cette chanson. Mais
maintenant, vous êtes fan ?
Absolument. C'est une chanson qui, entre-temps, j'ai entendu millions de fois. Mais qui catégorise bien, finalement, cette femme de cette classe ouvrière de province. Quand Alain Barrière est mort, j'ai découvert ça récemment, il y a eu beaucoup d'émissions dans France Bleu, province, etc. Et on a bien compris qu'il y avait une sociologie derrière ça et que le choix de Nina Bouraoui n'était pas anodin.
Escotage n'est finalement pas un opéra qui parle d'amour.
Oui, absolument. Otage est un opéra qui parle d'amour. Il parle d'amour autant qu'il parle d'emprise. Je pense que la question d'emprise est omniprésente dans Otage, mais elle est aussi malheureusement dans certaines histoires d'amour. On pourrait résumer Otage à trois scènes. Une qui s'appelle Je m'en vais. Une autre dans l'acte 3 qui s'appelle Tu t'en vas, qui est celle justement qu'on vient d'entendre, en tout cas qui fait référence à cette chanson d'Alain Barrière. Et la scène finale où, qui s'appelle Je t'en veux. Et je pense que c'est souvent, malheureusement, ce qui finit par se passer dans ces situations d'emprise amoureuse. L'amour peut être quelque chose de très enivrant, de très important, mais c'est quelque chose de très enfant. Je pense beaucoup à cette phrase de Shakespeare dans Une songe d'une nuit d'été, où il parle de la représentation de l'amour au travers de Cupidon qui a des ailes et pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a plus de facilité à s'envoler qu'à y voir clair. Et c'est pour ça qu'il le qualifie de quelque chose d'enfantin, finalement. Et je pense que l'emprise a beaucoup de ça, l'amour a beaucoup de ça. C'est quelque chose de délicieux, mais c'est quelque chose qui peut être destructeur.
Et l'opéra et l'amour ?
Eh ben, l'opéra et l'amour, ce sont deux choses qui vont toujours de pair. Il n'y a pas d'opéra sans histoire d'amour, il n'y a pas d'opéra sans jalousie, il n'y a pas d'opéra sans peine d'amour.
Vous vouliez terminer l'émission avec Robert Schumann. Pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est une citation qu'il y a vraiment dans cet opéra. C'est une, c'est Zart und Ziegen, des David Spunter Tanz de Schumann. C'est une pièce qui me hante depuis mon adolescence. J'ai mon premier cours de composition. Je l'ai fait à Buenos Aires avec Gerardo Gandini, qui avait écrit un nocturne pour quatre pianos ou quatre nocturnes pour piano, et qui était une fragmentation de ce morceau qui, entre-temps, est devenu une obsession pour moi et qui, pour moi, décrit effectivement la nostalgie du sentiment amoureux, tout en étant aussi quelque chose qui m'est très cher, la citation. Et vous allez entendre, si vous avez un peu l'oreille, que vers la fin, il y a un petit extrait d'une citation d'une sonate de Beethoven.
Gesa Honda interprétait Zart und Singen des David Bünzler Tänze de Robert Schumann. D'ailleurs, Sébastien Rivas, cette pièce inspire votre prochaine œuvre ?
Oui, une pièce pour court-circuit qui s'appelle Amour Chienne, justement, Amores Perros.
Je rappelle la création de votre opéra Otage du 17 au 23 mars au Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon. Mise en scène Richard Brunel, dans le cadre de la Biennale des musiques exploratoires qui se tient également du 6 au 30 mars dans différents lieux de Lyon. Merci beaucoup Sébastien Rivas.
Mais merci, merci à vous et à toute l'équipe. Merci encore pour cette invitation.
C'est ainsi que s'achève le carrefour de la création consacré à Otage, l'opéra de Sébastien Rivas. Attaché de production, Colline Redon, Benjamin Vignal, prise de son et mixage, une émission réalisée par Céline Parfenoff.
À réécouter sur francemusique.fr.